Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission sur Micro-Rebelle, émission à réécouter sur microrebelle.fr. Alors, cette émission est enregistrée le samedi 2 octobre 2021, suite à un chouette débat qui s'est déroulé dans la matinée au LAG, le lieu autogéré du bassin minier, en présence d'Adeline de l'Épinay. Adeline, bonjour.
Bonjour.
Et également en présence de Paul Masson. Bonjour Paul.
Bonjour.
Alors Adeline de l'Épinay justement a été invitée par le LAG pour parler d'éducation populaire autour de son livre « Organisons-nous, manuel critique » aux éditions Hors d'atteinte. Alors Adeline, première question, qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre ?
Qui m'a amené à écrire ce livre, c'était le besoin de travailler un peu les questions que je me posais dans le cadre de mes activités. En fait, moi, je viens du secteur de l'éducation populaire en tant que travailleuse associative et aussi en tant que militante. Et du coup, je viens de cette tradition-là et de ces pratiques-là. Et il s'est trouvé qu'en 2015, j'ai souhaité m'investir dans un projet collectif qui consistait à tenter d'utiliser des méthodes qu'on appelle de community organizing, qui sont des méthodes qui viennent des États-Unis. Et donc, j'ai fait partie du groupe qui a créé un groupe de community organizing à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Et donc, on a pratiqué ces méthodes-là pendant, en ce qui me concerne, 2 ans. Là-bas. Et c'est des méthodes, on en reparlera peut-être, mais qui sont assez formalisées dans un but de créer de la mobilisation, de favoriser la mobilisation, le regroupement et la création de mouvements de lutte auto-organisés, en l'occurrence dans les quartiers populaires, pour défendre la possibilité d'avoir de gagner des améliorations concrètes et des méthodes assez formalisé, très axé sur l'efficacité, qu'on évalue beaucoup avec des critères quantitatifs, etc. Et du coup, c'est venu un peu confronter mes pratiques habituelles, qui sont plus donc de l'ordre de l'éducation populaire, qui sont moins centrées sur ces critères quantitatifs d'efficacité, plus sur du temps long, plus sur une forte importance donnée au processus, à la façon dont on fait les choses, à la cohérence entre les fins et les moyens qu'on utilise. Alors que là, on était un peu ça pouvait aller dans un truc qui pouvait penser qu'à court terme, la fin en vaut les moyens parce que ça vaut le coup pour ce que ça construit. Et du coup, ça c'était dans ma tête et dans mes pratiques pas mal confronté. Et donc, j'ai cherché à voir comment me sortir de ces contradictions-là, que faire avec ça. Et pour faire ça, j'ai demandé une bourse que j'ai obtenue qui m'a permis d'aller 4 mois aux États-Unis rencontrer ce qu'on appelle les organizers, c'est-à-dire des gens qui pratiquent le community organizing et l'organizing tout court aux États-Unis. Et donc, pendant 4 mois, j'ai fait 90 entretiens, 60 observations, ce qui m'a vraiment permis de poser à des personnes qui ont cette pratique-là les questions que je me posais. Évidemment, c'est des questions que ces personnes se posent aussi, mais ils avaient plus de billes que moi pour y répondre. Et donc, j'ai obtenu toutes ces réponses-là que j'ai croisées à mon retour avec les principes et les pratiques d'éducation populaire. Et c'est ce qui donne le bouquin qui fait ces allers-retours entre toutes ces tensions en fait qui sont plutôt des pratiques qui visent la cohérence et des pratiques qui visent l'efficacité efficacité telle qu'on l'entend dans le monde aujourd'hui. Et du coup, quelle tension ça crée et comment est-ce qu'on se dirige avec ces deux choses qui sont malgré tout importantes, à la fois d'être cohérent et cohérente et à la fois d'arriver à avoir des impacts et des résultats.
Alors effectivement, dans ton livre, il est beaucoup imprégné de cette idée de transformation sociale et d'émancipation. Organisons-nous, c'est son titre. Alors l'organisation, tu poses la question explicitement dans le livre, l'organisation est-elle un obstacle ou une solution à la transformation sociale ?
Ah, excellente question. J'imagine que c'est nécessaire. Parce que la transformation sociale, dans social, il y a société. Et société, ça veut dire, d'une certaine façon, être organisé. Et du coup, on est bien obligé de s'organiser. Et c'est aussi le paradoxe, c'est qu'on le veuille ou non, on s'organise. Et ça, c'est un peu quelque chose qui est vrai dans notamment des mouvements récents, mais pas seulement, mais dans des mouvements récents qui peuvent être, qui ont pu être Nuit debout, qui ont pu être les Gilets jaunes, qui ont pu être les mouvements climat, qui rejettent un petit peu les façons de s'organiser plus traditionnelles, qui viennent du mouvement ouvrier, qui viennent de différentes traditions, et qui à certains endroits refusent le fait de s'organiser ou cherchent d'autres façons et où cherchent d'autres façons de s'organiser. Et donc il y a vraiment des questions autour de ça sur comment on s'organise pour créer de la transformation sociale. Et voilà. Et même si on dit qu'on ne veut pas s'organiser formellement, de fait on s'organise. Et ça c'est il y a une féministe des années 70 qui s'appelait Jo Freeman qui avait écrit un texte sur la tyrannie de l'absence de structure et qui parlait de ces cadres collectifs qui disent ne pas être structurés, ne pas être organisés et qui du coup créent, le résultat c'est que la structure existe de fait puisque quand on est un collectif de fait il y a des relations entre les gens, donc il y a une structure de collectif, mais si cette structure n'est pas pensée et rendue visible, du coup on ne peut pas agir dessus. Et ça pose des questions en termes de démocratie, c'est-à-dire que la démocratie et les façons de fonctionner démocratique nécessitent de savoir dans quel cadre on est pour pouvoir faire bouger ce cadre. Si ce cadre est caché, et ben en fait les dominations s'exercent de fait sans qu'on puisse agir dessus, les remettre en cause collectivement pour pouvoir collectivement se créer des règles collectives qu'on va discuter et qui resteront discutables, mais qui seront démocratiques.
Alors justement, puisque tu parles de cadre, hein, ton livre tire plusieurs fils en quelque sorte, enfin, en tout cas pose plusieurs questions. Je vais te les renvoyer, donc notamment parmi les thématiques que tu abordes, il y a la question du spontanéisme, de l'avant-gardisme et de l'autogestion. Alors comment est-ce que tu peux nous orienter dans ces termes en quelque sorte?
Oui, c'est un peu, notamment être entre le spontanéisme et le dirigisme, c'est deux pôles d'une tension qui existe, qui est le spontanéisme qu'on aimerait tous et toutes croire que de façon spontanée, quand il y a quelque chose de scandaleux, quand il y a quelque chose d'inacceptable, les foules vont se lever et on va toutes et tous rétablir collectivement une situation juste, libre, égalitaire. Enfin voilà. Sauf que non, ça fonctionne pas comme ça parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas comme ça. Et à l'autre opposé de cette tension-là, donc du spontanéisme, on a la tendance dirigiste, avant-gardiste, qui se dit que, pour le coup, les masses ne bougent pas, qu'on ne peut pas... et que, du coup, il faut guider les masses, et rien que le fait d'appeler ça les masses, il faut guider les masses vers la bonne direction, que nous, on a, évidemment. Hein, et donc, voilà, donc suivez-nous. Et du coup, c'est non seulement suivez-nous, mais c'est aussi une façon d'utiliser les masses au bénéfice de ce qu'on pense être bon pour eux et pour elles. Donc, ça c'est l'autre côté. Là, on n'est pas du tout dans la confiance dans le groupe. Et donc, c'est ça. C'est une question de confiance dans le collectif non structuré à avancer. Est-ce que le collectif, ça va bouger tout seul ou est-ce qu'au contraire, on peut vraiment pas faire confiance et il faut qu'on manipule pour que ça avance. Et du coup, l'idéal, selon moi, et que je défends dans le bouquin, entre ces deux choses-là, c'est plutôt la perspective de l'autogestion, de l'auto-organisation, où on va ensemble, c'est pas une confiance aveugle dans le spontanéisme que de fait, bam, les choses vont se passer et la justice va apparaître du fait de notre mobilisation spontanée. Mais c'est qu'il va falloir qu'on travaille ensemble, qu'on se crée une culture commune, de manière à définir qu'est-ce qui est juste pour nous, comment est-ce qu'on fonctionne de faction égalitaire, comment on garantit les libertés au sein de nos groupes et ailleurs. Et donc ça s'appelle, en gros, c'est des fonctionnements autogestionnaires où on va ensemble se poser les questions de nos fonctionnements de manière à prendre en charge collectivement de façon démocratique nos fonctionnements. Et c'est très, très exigeant. Souvent, on utilise le mot autogestion pour dire c'est bon, on s'autogère. Ça veut dire, en gros, on s'occupe de rien et chacun s'occupe de soi, en fait. L'autogestion, c'est tout sauf ça. C'est au contraire très, très exigeant, mais comme toutes les pratiques démocratiques, c'est très exigeant, mais c'est aussi très très intéressant pour tout le monde. Et puis c'est une perspective pour le coup de transformation sociale, puisque c'est une façon de fonctionner autrement et qui donc met en œuvre dès aujourd'hui des pratiques collectives qui préfigurent la transformation sociale, comme en tout cas j'aimerais voir advenir.
Oui, on est plusieurs à avoir la même idée. Alors, ce matin, donc, au lieu autogéré, tu as présenté ce livre et notamment tu as, dans ton introduction, développé les différentes stratégies pour la transformation sociale et l'émancipation. Alors, si tu es d'accord, est-ce que tu peux y revenir ?
Oui, je peux. C'est une façon de présenter les choses qui est venue. Alors, dans le bouquin, ça c'était déjà un peu présenté comme ça. Et puis là, depuis, ça fait bientôt 2 ans qu'il est sorti. Et je continue en le présentant, ça continue à évoluer aussi ma façon de le présenter et de penser tout ça. Et donc, j'en suis arrivée à essayer de classifier des stratégies, des façons d'agir que je pratique, que je vois autour de moi, etc. Alors, du coup, dès lors qu'on essaie de classifier, ça donne quelque chose d'un peu peut-être caricatural. Mais l'objet d'essayer de classifier, c'est d'essayer, enfin moi ça m'aide en tout cas à penser les modes d'action. Et donc ces stratégies, je les mets en 3 grandes familles. Stratégie culturelle qui vise à faire évoluer notre compréhension du monde, la compréhension du monde de manière générale, donc à diffuser des idées, à créer des idées, enfin donc on est vraiment sur le côté des idées, de la compréhension du monde, de la culture. Deuxième famille de stratégies, c'est les stratégies matérielles. Donc là, c'est comment matériellement on va lutter concrètement pour lutter et agir concrètement pour transformer les choses. Et dernière stratégie, celle qui s'intéresse à la question du nombre que l'on est et à se regrouper le plus largement possible. Et donc au sein de ces 3 stratégies, il y a aussi différentes façons de penser. Dans la première, donc les stratégies culturelles, j'en mets 2. Je mets l'éducation populaire, déjà. L'éducation populaire, c'est notre auto-éducation qu'on fait collectivement, ensemble, au travers de ce qu'on fait. C'est les temps de recul, d'arrêt qu'on prend pour regarder ce qui se passe, essayer de comprendre la complexité de la situation et voir comment, dans cette situation, on va réussir à agir. Et du coup, l'éducation populaire, ça consiste à travailler la complexité, à travailler les tensions en place pour développer notre pouvoir d'agir et notre puissance d'agir. Donc ça va aussi avec tous les processus d'empowerment, le mot états-unien, moi j'aime bien le traduire par empuissantement, c'est-à-dire c'est vraiment développer notre puissance d'agir collective en gardant la complexité du monde. Mais ce qui développe aussi, justement, une complexité qui ne nous empêche pas d'agir, qui ne rend pas les choses trop compliquées, mais juste qui laisse la complexité des choses, et non pas leur côté compliqué, et sur laquelle on va réussir à agir en décidant ensemble comment on s'y prend, quoi. Et en prenant le temps d'avoir ces discussions-là. Donc ça, c'est le côté éducation populaire, qui est un peu notre culture, c'est-à-dire qu'on fait ça ensemble, c'est pas l'éducation populaire des autres. Éduquer le peuple, c'est pas ça. L'éducation populaire, c'est le peuple qui s'éduque ensemble pour sa propre émancipation, donc ça vise l'émancipation par la transformation sociale. Et donc ça, c'est l'éducation populaire. Peut-être un petit détour par la notion d'émancipation, puisque justement, l'émancipation, moi, on l'utilise toujours avec, lié à la transformation sociale, parce que sinon, on tombe dans l'émancipation libérale, qui est très en vogue en ce moment dans les politiques, notamment les politiques publiques, l'émancipation du chacun pour soi, du quand on veut, on peut, si vous voulez trouver un travail, commencez par traverser la rue, quoi. Donc ça, c'est pas du tout l'émancipation dont je parle ici. Donc là, on parle bien d'une émancipation dans le cadre et qui s'accompagne, qui lutte pour la transformation sociale. Donc voilà, l'éducation populaire, première stratégie culturelle. Deuxième stratégie culturelle, là, c'est pour le coup, on va s'adresser aux autres, alors que l'éducation populaire, c'était nous ensemble. La deuxième qui s'adresse aux autres, c'est la bataille de l'opinion publique. On va tâcher de diffuser des idées, des analyses, des visions qu'on pense bonne, qu'on a envie de diffuser pour diffuser notre compréhension du monde justement et essayer de la faire, qu'elle touche le plus de personnes possible. Donc là, on est, c'est un peu les théories de la communication, et on est les émetteurs, les émettrices, et on va s'adresser à des personnes dont on aimerait qu'elles écoutent notre discours, qu'elles lisent nos textes, etc. Et là, si on le pense de façon caricaturale, encore une fois, mais je pense que c'est intéressant pour nous questionner, finalement, je parlais des théories de la communication, ça va aussi avec ceux les cadres qui pensent ça de la façon le plus formelle, c'est probablement le marketing et la publicité. Et si on s'intéresse à leur façon de penser, comment est-ce qu'on transmet une idée à quelqu'un qui n'a pas sollicité cette idée-là, donc c'est ce que fait la pub, on simplifie terriblement notre message, on l'adapte à la cible, c'est-à-dire à qui on s'adresse. Donc à qui on s'adresse, on adapte notre message à cette cible-là. On simplifie terriblement notre message puisque les personnes en face n'ayant pas sollicité notre message n'ont que très peu de temps à nous accorder. Et puis si elles ne sont pas intéressées immédiatement, elles vont zapper. Donc on a 7 secondes pour convaincre et on va essayer de fonctionner par slogan, par phrase choc et par phrase qui accroche. C'est-à-dire que le but n'est absolument pas de braquer, le but est d'intéresser. Donc vu que le but n'est pas de braquer, on va bien choisir ce qu'on va mettre en avant en fonction... en s'intéressant à quelles sont les questions, quels sont les besoins, quels sont les désirs des groupes sociaux auxquels on cherche à s'intéresser. Et donc, penser comme ça, ça paraît très cynique. C'est un peu emmerdant de penser en termes de marketing. Et à la fois, on ne peut pas nier que si vraiment notre but est de diffuser des idées, y a un moment peut-être qu'il faut qu'on se pose la question de comment on le fait. Donc voilà, sur le principe qu'un livre n'est généralement acheté que par des personnes qui sont intéressées par le contenu de ce livre, c'est comment est-ce qu'on diffuse nos idées autrement, en sachant qu'après, les personnes qui seront intéressées pourront trouver toute la littérature complexe qu'elles souhaitent pour fouiller ces sujets-là. Mais dans un premier temps, c'est cette pensée en hashtag, cette pensée en slogan. C'est vraiment la bataille de l'opinion publique à questionner selon ce que sont les critères du marketing et comment est-ce qu'on s'approprie ça ou qu'est-ce qu'on refuse, comment on joue avec ces jeux-là, avec ces règles du jeu-là. Voilà, donc ça, c'est les deux stratégies que je propose, les deux pôles de stratégie sur les questions culturelles. Et après, je continue avec les stratégies matérielles, puisque sur le principe aussi que s'il est nécessaire que des idées évoluent pour que le monde change, par contre, changer les idées, ça ne suffit pas pour changer le monde. Et donc, il faut aussi coupler ça avec de l'action matérielle très concrète sur le terrain. Et ça, je propose de le diviser en 4 grandes familles qui sont... Alors, ce n'est pas des familles hermétiques. Hein, quand on regarde une action, elle est généralement un peu à la frontière entre plusieurs. Mais encore une fois, je propose des cadres pour nous questionner. Et ces 4 familles, je les positionne par rapport au pouvoir institué, donc on appelle ça le système, voilà. Et c'est dans, avec, contre et hors le pouvoir et le système. Donc la première, c'est dans le système, la stratégie d'être dans le système, et là, c'est être vraiment à l'intérieur de l'institution. Donc ça va être tous les métiers comme prof, le travail social, la santé, les questions de jurisme, etc. Et où là, selon qu'on a, par exemple, un travailleur ou une travailleuse sociale militante ou pas, ça ne donne pas du tout le même résultat. Donc moi, je pense qu'il y a une démarche de manœuvre dans ces endroits-là et qu'on a besoin de militants et de militantes dans ces endroits-là. Et pour autant, on est très vite bloqué et on est quand même très limité par le cadre institutionnel. Mais bon, c'est des métiers qui nous permettent aussi de payer nos loyers et ça, c'est important. Donc c'est des métiers où on va pouvoir exercer une subversion, aller dans la résistance et exploiter des brèches qui existent pour essayer de... C'est des stratégies de survie, essayer collectivement de faire ce qu'on peut dans l'état des choses tel qu'il est. Ça pose la question de l'organisation collective, notamment syndicale, pour faire bouger, pour développer ces brèches, pour élargir ces brèches, et pour limiter les reculs et pour augmenter les possibilités dans ces métiers-là, les conditions de travail, les conditions d'accueil des publics, de comment est-ce que ces métiers peuvent être au maximum émancipateurs et le moins possible dans le contrôle social, même s'ils le sont toujours un peu. Ça pose aussi la question du pouvoir d'État, donc ça veut dire les élections, la question de la démocratie participative, voilà, qui sont des champs dans lesquels, pareil, on peut faire des choses. Après, moi, ma position, c'est de dire que vu l'énergie que ça demande, et que l'énergie, c'est quand même une denrée rare, c'est une denrée rare quand on milite. Je pense que dans les questions d'allocation d'énergie, se lancer dans le jeu des élections, même si ça voilà, quand on est élu, on peut empêcher des choses, on peut avancer des choses, mais ça prend tellement toute l'énergie que peut-être que... Et puis, on ne peut rien faire si on n'a pas de mouvements sociaux derrière nous. Donc, finalement, pourquoi ne pas mettre toute notre énergie dans les mouvements sociaux? Voilà, c'est une proposition. Donc ça, c'est la première stratégie dans le pouvoir, agir là. Et donc, je disais, quand on est dans le pouvoir, ça pose la question de faire front quand même pour élargir les capacités d'action. Et donc là, on change de catégorie, on passe dans ce que j'appelle avec le pouvoir, parce que négocier avec le pouvoir. L'idée, c'est de passer en mode rapport de force et non plus résistance cachée à l'intérieur de l'institution, vraiment passer en mode rapport de force. Donc là, typiquement, c'est le syndicalisme, même si le syndicalisme ne fait pas que ça, mais une partie du syndicalisme qui va chercher à établir un rapport de force dans le but d'ouvrir des négociations pour gagner des améliorations concrètes. Et donc là, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai appris avec ces méthodes-là, enfin une grille de lecture, pareil, qu'on peut considérer comme cynique, mais qui a son intérêt si on veut questionner nos pratiques, qui consiste à dire que le rapport de force, d'une part, il réside dans la menace. S'il n'y a plus de menace, il n'y a plus de rapport de force. C'est comme au poker, une fois qu'on a fait tapis, soit on a gagné, soit on a perdu. Donc l'enjeu, c'est de faire croire, ou de faire en sorte, pas seulement croire, d'exercer une pression pour que le camp d'en face soit poussé à négocier et voit dans notre force une difficulté et donc ouvre des négociations. Qui dit négociation dit qu'on a quelque chose à négocier. Et donc ça veut dire que l'idée, c'est de poser des revendications qui soient précises et surtout qu'ils soient gagnables. Si on pose des revendications qu'on ne pense pas pouvoir gagner, en fait, on est en train de se planter dans notre stratégie. Donc là, à cet endroit-là, l'idée, c'est de poser des revendications gagnables, ambitieuses, pourquoi pas, mais gagnables. Et que ces revendications, on ne va pas les lancer à la cantonade, comme ça, on va les adresser à une cible particulière qui est en capacité d'accepter ces revendications-là, qui a ce pouvoir-là. On ne va pas lancer la revendication à quelqu'un, à une institution qui n'a pas la possibilité d'accepter ces revendications. On va cibler sur la bonne institution, la bonne entreprise. Du coup, on va exercer un rapport de force, c'est-à-dire une menace, sur cet endroit-là et pas ailleurs. Donc, on va pouvoir imaginer, avoir une réflexion créative sur quel type de rapport de force serait efficace. Donc, efficacité au sens rapport coût. Coût-efficacité, c'est-à-dire qu'il va nous fatiguer, nous coûter le moins possible à nous, mais avoir un impact maximum sur la cible. Donc on va essayer de réfléchir en termes de est-ce que c'est attaquer l'image, est-ce que c'est faire du blocage économique, est-ce que c'est attaquer la réputation, enfin voilà. Réfléchir à ça, comment on fait du rapport de force et comment on crée de la menace. Et après, on va passer en négociation. Et donc, on va aller négocier avec la cible sur notre revendication. Et au moment de la négociation, ça aussi, pour moi, ça a été assez contre-culturel. Les États-Unis, ils disent, quand on est en rapport de force, on est en opposition. On est les uns contre les autres et on est contre la cible. Mais une fois qu'on a suffisamment exercé de rapport de force et que d'autres... On a réussi à créer un problème suffisant à la cible pour qu'elle ouvre des négociations, et à ce moment-là, finalement, on a le même problème que la cible. C'est-à-dire que notre problème est devenu le problème de la cible. On lui a créé un problème. Et donc, on va se retrouver en table de négociation pour résoudre notre problème qui est devenu commun. Et donc, à partir du moment où on a un problème commun, on n'est plus en face à face, on est côte à côte et on va chercher ensemble le meilleur compromis pour les deux parties pour sortir de la crise. Et un principe de base qu'on a peut-être un peu tendance à ne pas appliquer toujours, c'est qu'on ne s'assoit jamais à une table de négociation si on n'a pas le pouvoir de négocier. Et ça, c'est vrai qu'on peut avoir de temps en temps tendance à être un peu léger là-dessus et à aller trop vite à la table de négociation. Et finalement, c'est impossible de gagner si la menace n'est pas suffisante. Donc voilà, c'est toute cette pensée un peu cynique, dure de la négociation que moi j'ai découverte aux États-Unis et qui est vraiment dure. Et je pense que c'est important. Enfin, moi, ça m'a aidé d'en prendre conscience parce qu'en fait, c'est ce jeu-là qu'on joue quand on joue le rapport de force et quand on joue la négociation. Moi, ce n'est pas ce monde-là que je veux. Il n'empêche que c'est ce monde-là dans lequel on est. Et il y a un moment, si on est dans ce jeu-là, il vaut mieux en maîtriser les codes plutôt qu'être à côté, ne pas fonctionner avec de la menace, aller s'asseoir à la table de négociation trop tôt, où là, on est sûr d'avoir perdu. Et en fait, on s'est abîmé nous-mêmes et on n'a même pas gagné, quoi. Donc finalement, à un moment, il vaut mieux maîtriser ces règles-là et du coup jouer avec, tout en sachant qu'il y a d'autres terrains de jeu. Et donc là, je passe au troisième terrain de stratégie matérielle, qui est plus dans la négociation avec le pouvoir sur la base de revendications gagnables, mais on va passer hors du pouvoir et nos revendications, elles ne vont plus être dans le même champ. On ne va plus être dans le champ de la revendication gagnable. On va être dans la revendication beaucoup plus large de transformation sociale et que le pouvoir n'acceptera jamais. On le sait très bien. Donc, du coup, on n'a pas la même stratégie. Pour faire la différence entre les deux, moi, j'aime bien utiliser je trouve que le slogan de la lutte à Notre-Dame-des-Landes est extrêmement clair là-dessus. Contre l'aéroport et son monde, contre l'aéroport, ça a été gagné. C'était une revendication gagnable, ambitieuse, gagnable. Il y a eu suffisamment de rapports de force pour qu'ils signent en bas de la feuille « Ok, on annule cet aéroport ». En revanche, et son monde, il n'y a personne, jamais personne qui va signer en bas de la feuille. Enfin, jamais aucun pouvoir qui va signer en bas de la feuille « Ok, on change le monde ». Non, non, ça n'arrivera pas. Donc, de fait, on ne lutte pas pareil. C'est une autre stratégie, on est hors. Et on refuse la rationalité dominante, on refuse de s'en tenir à ce qui est raisonnable. Et on va agir et lutter au-delà de ça. Et donc, ça pose la question, évidemment, de la violence, parce que l'État, il n'aime pas quand on ne veut pas négocier avec lui. Donc, l'État, elle devient largement violent quand on est dans cette stratégie-là. Donc, ça pose la question de la violence, avant tout pour se défendre, mais du coup, de fait, qui s'impose. Ça pose la question aussi des modes d'action, puisque là, on n'est plus dans l'action délégative où on va demander à l'État ou demander aux entreprises ou d'accéder à nos revendications. On va plutôt être dans l'action directe où on va directement, nous, faire et mettre en œuvre ce qu'on demande. Donc on n'est plus, par exemple, dans une lutte avec du rapport de force où on va chercher à négocier l'obtention de nouveaux locaux. On va faire la réquisition de nouveaux locaux, par exemple. Voilà. Et donc là, on est dans l'action directe. Donc ça, c'est le troisième champ des stratégies matérielles. Donc on avait dans, avec, contre.
Or.
Contre. Et maintenant, on passe dans or. Voilà. Et le quatrième, donc hors du pouvoir. Et donc là, c'est ne pas attendre le changement pour changer. C'est se dire, en fait, on va se désintéresser du pouvoir, se désintéresser du système et on va faire notre projet à part, sans demander de financement, sans attendre rien, sans... Voilà, on fait notre truc. Et donc là, on va créer des bulles d'émancipation, des bulles d'expérimentation. Et donc, c'est extrêmement important parce que ça veut dire qu'on va apprendre collectivement à faire autrement. On va imaginer d'autres possibles et les imaginer concrètement. On va se frotter aux difficultés aussi, parce que c'est souvent compliqué de fonctionner autrement dans un monde qui n'a pas changé. Mais on va le faire, ce qui va permettre de montrer que c'est possible, de nous y frotter et éventuellement de rendre ça aussi la possibilité de le diffuser. Après, c'est pas la même chose tout à fait que la stratégie du colibri qui dirait « je fais ma part et c'est bon ». Oui, certes, je fais ma part. Par contre, on ne peut pas dire « et c'est bon ». Ça ne veut pas dire que c'est grave pour autant. Hein, mais on ne peut pas penser qu'il y aura des effets boule de neige et que ce sont des expérimentations et à la marge qui vont faire basculer le rapport de force et l'ordre des choses. Parce que, par exemple, on peut se dire que quand les AMAP seront un danger pour le groupe Auchan, le groupe Auchan n'aura aucun mal à faire voter une loi qui interdira la vente directe ou n'importe quel prétexte, en tout cas pour faire interdire et pour limiter l'expérience du coup des AMAP. Donc ça veut dire que ces expériences hors système sont extrêmement importantes, mais elles, de fait, elles ont besoin d'être en lien avec les autres façons de lier, comme de lutter, comme toutes les autres façons de lutter ont besoin d'être en lien entre elles aussi. Donc voilà, ça c'est les quatre cases schématiques de façon de lutter matérielle. Et puis après ces stratégies culturelles, ces stratégies matérielles, je fais un dernier petit zoom sur la question du nombre pour deux raisons. Donc du nombre par opposition à fonctionner en avant-garde et en entre-soi. La première raison, c'est l'enjeu de préfiguration. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on pense que la révolution ne sera pas un grand soir ou le lendemain du grand soir, tout sera beau, ça veut dire que la révolution, c'est un processus. Transformer les choses, la transformation sociale, c'est un processus. Et ce processus, il se fait par nos actions, par le fait que nous-mêmes, on se décolonise du capitalisme qui est à l'intérieur de nous, de toutes les dominations qu'on reproduit, qu'on le veuille ou non. Et du coup, on va préfigurer au maximum. Et ça se fait dans l'action, dans le réel. On ne décide pas. La démocratie, ça ne s'apprend pas dans les livres, ça se pratique. La lutte contre arrêter de reproduire les dominations, et que ce soit d'en profiter ou de les subir, ça ne se fait pas, ça ne se décide pas, ça se vit. Et du coup, il faut qu'on soit le plus nombreux et le plus nombreuses possible à expérimenter ensemble, à préfigurer ensemble d'autres façons de fonctionner qui soient libérées autant que possible des dominations et qui se libèrent autant que possible de l'esprit du capitalisme. Et du coup, ça c'est l'enjeu de préfiguration, il faut qu'on soit le plus nombreux, plus nombreuses possible pour que la transformation soit réellement possible. Et le deuxième enjeu, c'est que c'est le nombre qui donne la légitimité à nos idées, à nos pratiques, et c'est le nombre qui donne la possibilité d'avoir du rapport de force pour exercer une transformation, et là, pour le coup, aller dans le rapport de force avec l'ordre dominant. Donc voilà, c'est un peu, j'espère que je ne vous ai pas perdu, mais c'est un peu les cases que je propose. Et moi, ça m'aide en tout cas à réfléchir, à me dire, OK, où je suis, quand on fait ça. Pour moi, l'enjeu, ce n'est pas de créer des scissions. Ces cases-là, elles ne créent pas des séparations entre les stratégies. Au contraire, l'idée, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et du coup, si on est en train de faire ça, c'est peut-être qu'il faut qu'on fasse un peu plus comme ça, parce que là, on est un peu en train de mélanger les choses. Et en fait, nos moyens ne correspondent pas aux fins qu'on essaie de... Donc, en fait, on perd de l'énergie. On va être déçu parce que finalement... Enfin, voilà. Donc, c'est essayer de se donner le plus de chances possible de bien faire ce qu'on essaie de faire, tout en se disant qu'on ne fera pas tout, parce que personne ne fait tout, voilà, on n'a que 24 heures par jour. Par contre, il y a du monde partout, et donc c'est aussi être plus en paix peut-être avec le fait que on a des stratégies différentes. De temps en temps, ça crée des contradictions entre ces stratégies-là, mais étant donné qu'aucune contre-stratégie n'est suffisante à elle seule, c'est aussi gagner en humilité collective, en se disant en fait c'est ensemble et par ces différentes stratégies, par ces différents tâtonnements que qu'on fait bouger les choses et que on ne sait pas exactement comment, où est-ce que ça bouge, où se passent les paliers, parce que souvent les changements c'est un peu comme la technique des plaques, quoi, ça pousse et puis ça bouge. Donc on ne sait pas quand ça viendra, d'où ça viendra, mais en tout cas c'est tout ces faits d'être partout en même temps et à différents collectifs selon différentes donc voilà, on est tous et toutes un peu partout et donc l'idée c'est certainement pas de scinder entre vous êtes là-dedans et puis ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'est pas du tout ça l'idée, c'est plutôt au contraire de se dire il y a tout ça et comment on fait avec tout ça.
Oui, je te remercie, ça effectivement c'est le socle en quelque sorte de ton livre, ces différentes stratégies culturelles, matérielles et en termes de nombre pour la transformation sociale et l'émancipation. Donc ça a aussi occupé une grande partie du débat ce matin au lieu autogéré. Si tu es d'accord, on va aborder maintenant quelques aspects connexes de ton livre. Alors, par exemple, tu évoques le bilan décevant du syndicalisme réformiste et du community organizing. Est-ce que tu peux revenir sur ces aspects-là?
Il me semble qu'on est aujourd'hui dans une situation qui est compliquée du point de vue... Le syndicalisme à la base, syndicalisme révolutionnaire, avait pour but l'abolition du salariat. Ça reste à vérifier, mais on m'a dit que l'abolition du salariat avait été sortie des statuts de la CGT en 1968. Tu me fais signe que oui, donc tu confirmes, très bien. Et ça, c'est très parlant, c'est-à-dire qu'à la base, le salariat, c'est, on peut considérer que, on vend sa force de travail, on vend son énergie contre de l'argent, et donc en fait, c'est une aliénation compensée par de l'argent. Donc on n'est pas dans l'esclavage où il y a juste une utilisation et une appropriation des personnes humaines. On est dans l'exploitation des personnes humaines en échange et de la nature, mais en échange d'argent qui elle n'a même pas le droit à de l'argent. Et donc c'est un contrat profondément, intrinsèquement inégal, qui est compensé par de l'argent, une aliénation compensée et une exploitation compensée par de l'argent. Et donc, à la base, l'idée, c'était de lutter contre ça. Et donc, lutter contre ça avant tout en mettant des droits et donc des limites à cette exploitation. Et ça, ça a été tout le combat du début, fin 19e, début 20e, mettre des limites, créer le droit du travail, etc. Mais le paradoxe, c'est que finalement, il y a eu... Ça a bien marché. C'est-à-dire que le droit du travail s'est créé, il y a eu des limites, et du coup, c'est devenu acceptable. Et c'est là où le truc se renverse, c'est que le moment où le travail salarié devient acceptable et même devient une protection, c'est-à-dire qu'avec la création aussi de la sécurité sociale à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, finalement, le travail salarié est devenue une protection. C'est-à-dire qu'en vendant sa force de travail 40 heures semaine, je ne sais plus à combien on était à ce moment-là, mais on retrouve une protection qui fait qu'on a une sécurité pour sa vie, pour ses proches. On peut penser que les générations d'après auront une vie meilleure, etc. Ça, c'est la situation à ce moment-là. Donc on se dit, bah, maintenant, le salariat, il n'est plus à abolir, c'est devenu une protection. Sauf qu'après, transformation à nouveau du capitalisme, et du coup... On est reparti, enfin, on part dans un mouvement inverse où les droits, le rapport de force s'inverse et les droits reculent. La répartition des richesses entre capital et travail s'inverse. Et aujourd'hui, on est dans une situation où le salariat est un statut qui, alors, il reste protecteur, heureusement, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut continuer à lutter pour ce statut-là, mais malheureusement, il a déjà tellement reculé que non seulement il y a plein de gens pour qui il est plus protecteur, c'est-à-dire qu'il y a aussi plus l'identité collective des travailleurs travailleuses qui créait de la fierté, qui créait de la sécurité, qui créait du collectif, de la solidarité. Il n'y a plus ça. Et puis, il y a plein de gens qui, en fait, aujourd'hui, de plus en plus, d'une part, en sont exclus. Donc, c'est des gens qui ne souhaitent pas en être exclus, mais qui n'ont pas accès au salariat et qui, donc, doivent se débrouiller autrement. Et puis, il y a plein de gens, et là, c'est plus en place, on parle de classes plus aisées économiquement, qui refusent le salariat, qui se disent, en fait, moi, je ne suis plus prête à vendre ma force de travail contre un salaire à un patron qui, de toute façon, va me jeter quand ça lui chantera. Et qui pour faire un travail qui n'a aucun sens pour moi. Et du coup, il y a aussi plein de gens qui ont déjà enterré le salariat comme n'étant absolument pas quelque chose de suffisamment protecteur pour valoir le coup d'aliéner sa force de travail, son temps, sa vie à ça. Et là, c'est là où malgré toutes les victoires évidentes du syndicalisme qui a réussi à construire ce corpus de droit du travail. Aujourd'hui, on est dans une situation où on est en train de se battre pour défendre une situation, et il faut le faire, où on défend une situation qui nous échappe déjà. Alors, on peut pas, je ne veux pas déclarer la fin du salariat, certainement pas, donc peut-être qu'on va y arriver et qu'il va se passer des choses qui vont faire qu'on va pouvoir refaire du salariat un cadre protecteur. Voilà. Mais on ne peut pas non plus évacuer la possibilité que, on est en train de perdre. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et c'est là où c'est compliqué, je trouve, aujourd'hui, le syndicalisme salarié. Parce que le syndicalisme salarié est tellement acculé à tellement de risques de recul que, de fait, c'est compliqué de lutter positivement dans ce cadre-là, tellement il faut lutter en défensive. Et du coup, hors à lutter toujours en défensive, eh ben, on s'épuise, parce que en plus c'est compliqué, enfin, on a du mal à gagner ces luttes-là en défensive, et donc on essaie bien d'avoir des luttes, des revendications qui parlent de transformation sociale. Alors oui, on lutte pour les 32 heures, enfin on défend, on ne lutte pas encore pour les 32 heures, parce qu'on n'a pas vraiment l'occasion, mais on défend par exemple les 32 heures, des choses comme ça, des choses qui laissent avoir une amélioration sociale. Mais il n'empêche que fondamentalement, on est sur une position défensive et qu'à un moment, c'est compliqué. Comment reprendre la main dans une situation comme ça? C'est-à-dire comment se remettre en jeu et pas seulement en défensive? Et ça, je pense que c'est là où la position, où aussi le syndicalisme, mais c'est l'œuf et la poule, hein, le syndicalisme aujourd'hui regroupe beaucoup moins. C'est d'une part qui fait moins rêver, ces combats font moins rêver, même s'ils sont, ils restent terriblement importants. Et puis, n'importe qui se retrouve face à la fermeture de sa boîte voit très vite l'intérêt du syndicalisme. Sauf que le problème, c'est que c'est trop tard au moment où la boîte, elle ferme. Enfin, voilà, on est dans un truc où, du coup, les gens sont moins... C'est moins évident que c'est intéressant collectivement, que c'est une identité collective, que c'est une voie pour l'émancipation, la transformation sociale d'être dans le syndicalisme. Du coup, le syndicalisme est moins fort, du coup, c'est moins évident. Enfin bref, et c'est là où on est dans un cercle vicieux qui est extrêmement compliqué à inverser, étant donné qu'on est acculé à être dans des luttes défensives la plupart du temps.
Oui, donc là, syndicalisme réformiste décevant. Et tu dis la même chose du community organizing.
Oui, parce que en fait, le community organizing, donc aux États-Unis, c'est une pratique qui vient du syndicalisme. À la base, organizing tout court, ça veut dire syndicalisme. C'est rien d'autre que le syndicalisme, ça veut dire s'organiser. Et le community organizing, c'est les méthodes d'organizing, donc de syndicalisme, utilisées en dehors de la sphère du travail, utilisées dans la sphère de la community, donc au sens états-unien du terme, qui veut dire la sphère d'une communauté d'intérêt. Donc ça peut être le quartier, ça peut être autre chose. Et le premier à avoir fait ça, c'est quelqu'un qui s'appelle Saul Alinsky, dans les années 30 aux États-Unis, et qui donc a utilisé les méthodes du syndicalisme dans des quartiers pour se défendre face, donc là, pas face à des entreprises, mais face à tout ce qu'il fallait améliorer pour obtenir des améliorations concrètes dans le quartier. Et donc on est dans cette même logique du syndicalisme réformiste, c'est-à-dire qui a du mal à marcher, qui laisse tomber une de ses deux jambes définies dans la double besogne du syndicalisme révolutionnaire, puisque la double besogne du syndicalisme révolutionnaire est vraiment d'être à la fois sur, dans le même temps, lutter pour des améliorations concrètes aujourd'hui, donc là on est dans la réforme, et pour la transformation de la société parallèlement. Et donc, lutter en même temps sur ces deux choses. Le danger du syndicalisme réformisme et du coup du community organizing quand il est sur le même modèle, c'est de s'en tenir au syndicalisme réformiste. Et qui peut par ailleurs avoir empêcher des reculs, mais on reste dans le champ de la méthode, de la réforme, pardon. Et du coup, restant dans le champ de la réforme, on s'empêche complètement une réelle transformation, on devient complètement partenaire social, et finalement, c'est ça aussi le community organizing, c'est-à-dire que Saul Alinsky, il faut savoir que donc c'est les années 30, et lui, pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Il fait ça parce que déjà, il est paniqué. On est dans les années 30, les inégalités sont terribles aux États-Unis. Et puis, on a en Europe le développement du fascisme, que ce soit en Allemagne, en Italie, montée des fascismes. On a en URSS le communisme autoritaire, et Alinsky, il veut ni l'un ni l'autre. Il ne veut pas le fascisme, il est antifasciste, mais il ne veut pas non plus le communisme autoritaire. C'est un anticommuniste. Et d'ailleurs, Alinsky, il a été très bien financé par les églises, par les grandes fondations issues des entreprises, etc. Parce qu'en fait, c'est quoi son postulat ? C'est à dire que les inégalités, quand elles sont trop fortes, les exclusions, quand elles sont trop fortes, les gens, du coup, ils vont lâcher. Ils vont partir et ils vont aller vers le fascisme, ils vont aller vers le communisme. Donc en fait, sa façon de penser le community organizing, c'était fondamentalement pour sauver la démocratie. Sauver la démocratie libérale capitaliste. Et donc, ça voulait dire limiter. Et il était, par contre, complètement intègre et honnête dans son envie de limiter les inégalités, de lutter contre la pauvreté et tout. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est fondamentalement pour empêcher une transformation sociale radicale. C'est pour que la démocratie libérale capitaliste puisse continuer à vivre dans un contexte, en limitant les inégalités. Et pour ça, il faut que les pauvres, les exclus, aient leur place dans la démocratie telle qu'elle existe. Et si les capitalistes ne veulent pas laisser la place au dialogue avec les plus opprimés, et dans ce cas-là, il faut que les plus opprimés prennent leur place. D'où le recours au rapport de force en disant si vous ne voulez pas nous écouter, on va vous forcer à nous écouter. Et bam, et là, il part dans le rapport de force, et dans un rapport de force assez violent, très cynique, comme je le développais tout à l'heure, avec vraiment cette pensée de la menace, cette pensée de la négociation, etc. Vraiment, pour Alinsky, la fin en vaut les moyens. C'est-à-dire, s'il faut faire du clientélisme, s'il faut acheter des gens pour gagner une lutte, il le fait sans aucun scrupule. C'est pour gagner une lutte. N'empêche que pour gagner une lutte, il est prêt à faire des choses qui, pour le coup, pour la transformation sociale, nous mettent un peu sur la mauvaise voie. Mais du coup, on est dans ce truc-là de dire qu'il y a une urgence à améliorer les conditions des plus pauvres, des plus exclus, des plus opprimés. Et pour ça, on va se battre. Et ça résonne avec la situation d'aujourd'hui. C'est peut-être aussi pour ça que le community organizing arrive aujourd'hui, parce que pour de vrai, ça n'arrive pas vraiment en France, mais en tout cas, on en entend un peu plus parler. Mais Parce que déjà, on est dans un système politique en France qui est de plus en plus, qui assume de plus en plus ce côté libéral, néolibéral. Et puis aussi parce qu'on est dans un moment où la crainte du fascisme n'est pas loin, parce que les niveaux d'exclusion, de pauvreté, d'inégalité sont extrêmement fortes et que du coup, cette peur de la sécession, avec le niveau d'abstention qu'on voit, la peur de la sécession, elle est là. Et c'est pour ça aussi que les politiques publiques s'intéressent au community organizing. La politique de la ville s'y intéresse en disant mais comment on rattrape toutes ces populations qui aujourd'hui ne votent plus, ne croient plus du tout en la politique au sens la politique électorale, la politique institutionnalisée, et comment on les rattrape. Et en fait, ils se disent la démocratie participative, ça marche pas. Bon, bah, on va donner quelques crédits pour que, pour qu'ils revendiquent. Pour et on va en faire des. En fait, c'est devenu de l'éducation à la citoyenneté. Il y a des gens qui prennent ça comme de l'éducation à la citoyenneté, c'est-à-dire qu'on va accompagner les gens qui ne participent pas au jeu démocratique institutionnel, on va les accompagner à apprendre à revendiquer. Et donc on a un espèce de paradoxe, mais c'est paradoxal et à la fois pas du tout, parce que finalement le syndicalisme, c'est ça qui a permis au capitalisme aussi de perdurer. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu le droit du travail, il y a un moment, ça pouvait pas durer comme ça. Et c'est finalement l'établissement de règles et de limites qui a fait que ça a pu perdurer. Donc c'est terrible à dire, et à la fois, heureusement, on est bien content de l'avoir le droit du travail. Donc, mais on est dans ce truc-là où paradoxalement, on appelle ça l'intégration sociale par le conflit. C'est-à-dire que c'est par le conflit qu'on se retrouve membre de la société. Une société qui nous ignore, c'est extrêmement violent. Et si finalement on arrive à se faire entendre, même si c'est en tapant fort du poing sur la table et pas juste en frappant à la porte, bah finalement on y appartient à cette société. Et en fait c'est ça qui se passe dans cette... Et c'est d'ailleurs tout le danger du réformisme. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas faire de réformes, on a évidemment besoin de réformes. Mais si on pense ces réformes sans transformation sociale, finalement on lutte pour que la société devienne acceptable. Aménagé à la marge. C'est-à-dire que oui, il y a des limites, il y a un peu, voilà. Mais finalement, in fine, ça permet à la société de perdurer. Et donc ces réformes, il faut absolument toujours qu'on les pense en lien avec une finalité de transformation sociale, faute de quoi, en fait, on construit l'impossibilité de la transformation sociale.
Alors on va s'acheminer vers la fin de cet entretien, Adeline. Alors ton livre, hein, Organisons-nous, il a été écrit il y a 2 ans. Hein. Bon, depuis, il y a eu la pandémie... Toi, tu as mis en œuvre une tournée de présentation du livre. Hein. Tu tournes comme ce matin au LAG. Aujourd'hui, 2 ans après, tu en es où sur ces questions et quelle est la prochaine étape ?
C'est vrai que je suis assez contente de la réception du bouquin et qu'il y a différents collectifs et puis surtout ce qui est intéressant de plein d'univers différents qui m'ont contacté pour en discuter, que ce soit il y en a plus dans des secteurs plus institutionnels, travail social, animation et association d'éducation populaire, et puis aussi beaucoup du côté militant, parce qu'en fait je pense que les questions que je me pose dans ce bouquin là je ne suis pas du tout la seule à me les poser, en fait. Je pense que toutes les gens qui essaient d'agir se les posent. Et donc, du coup, c'est là où je pense que ça intéresse. Et du coup, là, moi, je continue à le présenter. Je continue à proposer des grilles de lecture sur lesquelles débattre et réfléchir collectivement. Je fais aussi de plus en plus d'accompagnement de collectifs. C'est-à-dire, et là, sur des trucs un peu plus longs, où c'est pas centré, je n'interviens pas en centrant sur le bouquin. J'en parle pas. Mais par contre, tout ce que je dis, ça me sert à accompagner des collectifs dans leur questionnement, dans leur réalité, dans leur tension, là où ils en sont et là où ça frotte. Et en éducation populaire, on travaille à partir de ce qui frotte. Donc moi, je travaille à partir des questions qui se posent dans les collectifs, de là où c'est compliqué. Et à partir de là, on tisse de la réflexion et on tisse de la prise de recul pour voir comment est-ce qu'on va comprendre la situation et avancer. Et donc ça, je fais ça de plus en plus. Et moi, là, ce qui m'intéresse, c'est la question de, encore une fois, de comment on s'organise, comment on fait ensemble, parce que j'ai toujours pas trouvé la solution. Si quelqu'un l'a, je laisserai mon numéro de téléphone. Mais voilà, moi j'ai pas trouvé. Et du coup, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Et donc. Et avec l'idée aussi, en fait, moi, il y a un truc qui m'a pas mal frappé. Je m'intéresse beaucoup à ces questions d'organisation. Et quand un jour, je m'étais acheté un bouquin de sociologie des organisations pour voir un peu, me former. Et là, des amis sociologues qui me disent « Ah mais non, mais la sociologie des organisations, c'est de la sociologie de droite. » Et là, je me dis « Mais comment on va faire, en fait ? Si on laisse au camp d'en face Si c'est le camp d'en face qui s'intéresse à comment on s'organise, c'est déjà eux qui s'intéressent à comment on diffuse des idées avec le marketing. C'est eux qui s'intéressent à comment on négocie. Parce qu'en fait, il n'y a que dans les écoles de commerce et à Sciences Po qu'on apprend à négocier, à l'ENA. Enfin, en fait, si c'est le camp d'en face qui s'intéresse à tous ces trucs-là et que nous, en fait, sous prétexte que c'est sale, on ne s'en occupe pas, en fait, il y a un moment, ça ne va pas marcher. Enfin, si, peut-être que ça va marcher, mais en tout cas, moi, je n'arrive pas à me dire qu'il ne faut pas s'intéresser à ça. Et donc, j'ai absolument pas la réponse et ça me met le nez dans plein de contradictions personnelles et ça me fait des nœuds dans la tête à n'en plus finir. Il n'empêche que moi, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on pense l'organisation d'une façon émancipatrice en visant une transformation sociale. Comment est-ce qu'on pense, alors ça pose la question de la démocratie, mais de façon plus concrète aussi dans nos organisations, y compris moi, je suis travailleuse associative et c'est question aussi de salariat associatif. Quand on voit la souffrance en milieu salarial dans le secteur associatif, on ne sait pas fonctionner ensemble. Les patrons de gauche, les patrons associatifs sont des horreurs. Moi, ça fait 15 ans que je travaille dans l'associatif. De temps en temps, je me dis, mais je vais aller là où il y a des vrais DRH, quoi. Il y a un moment, ça suffit. Et voilà, Et c'est pas possible, en fait. Ces contradictions-là, je les comprends, elles sont normales. Et moi-même, je me retrouve de l'autre côté de la barrière. Ça peut m'arriver de me retrouver à gérer, dans le cadre associatif, de me retrouver avec des salariés. Et je suis probablement très mauvaise, moi aussi. Mais je peux pas m'en satisfaire, en tout cas. Et du coup, c'est ça c'est vers ça que je vais de plus en plus. C'est ces questions de comment on se débrouille, en fait, et comment on essaie de faire un peu mieux ensemble avec toutes ces questions qui sont hyper compliquées, mais qui sont passionnantes aussi.
Bien, merci Adeline. Alors je rappelle, Adeline de l'Épinay, Organisons-nous, manuel critique, c'est aux éditions Hors d'atteinte. Et je précise aussi, si nos auditrices et auditeurs veulent aller plus loin sur l'ensemble de ces questions, ton site internet, education-populaire.fr. Merci encore. On est avec Paul Masson, qui ce matin, au LAG, au lieu autogéré, suite au débat autour du livre d'Adeline, a organisé la synthèse. Une synthèse, Paul, que tu as organisée en présentant différentes forces en tension. Je te propose d'y revenir.
D'accord, oui. J'écoutais la conférence et puis la discussion en essayant de repérer les contradictions. Alors, les contradictions, en gros, c'est deux forces qui tirent dans le sens inverse. Et le changement dans la société vient dans ces tensions, comment progressivement, d'un côté ou de l'autre, des marges de manœuvre se dégagent. Et à travers ces marges de manœuvre, les camps se modifient. Alors, la première grosse contradiction qui a apparu, c'est une contradiction qu'on pourrait dire entre les finalités et puis la société. La finalité de transformation sociale, c'est d'aller vers une société émancipée. Qu'est-ce que c'est qu'une société émancipée ? C'est une société où chaque membre de la société contribue à l'élaboration du projet de société. Mais cette action qu'on veut conduire, on ne la conduit pas de l'extérieur de la société existante qui, elle, est une société non émancipée, c'est-à-dire une société construite autour d'un certain nombre de dominants et un certain nombre de dominés. Et donc, la recherche, y compris des moyens pour transformer la société, on l'a fait à travers les règles de la société aliénante. Donc il y a quelque chose qui est un peu une contradiction qu'on va retrouver. On va vouloir salarier des personnes, mais le statut de salarié est un statut de subordination. C'est les règles de la société. Et pour aller vers une société émancipée, on va utiliser le statut de subordination par rapport à nos salariés. C'est une contradiction, c'est ce genre de contradiction entre les finalités et les moyens. On a vu aussi que pour réussir d'autres contradictions. Pour changer la société, on était obligé de passer par des actions concrètes. Mais que le fait de conduire une action concrète et de gagner une action concrète ne changeait pas la société. Elle changeait une situation, mais pas la société. L'illustration qui a été dit que tout à l'heure, Adeline a déjà redit, on est contre l'aéroport et son monde par rapport à la lutte vers Nantes. L'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Changer concrètement, l'aéroport, on ne l'a plus. Donc, on a gagné concrètement. Mais le monde, il n'a pas changé. On est toujours dans la même organisation sociale. Cette contradiction, cette deuxième contradiction, elle s'est développée, on s'aperçoit. La société alternative à construire, en cours de construction, suppose sur une représentation du monde différente de la représentation dominante. Mais quand on fait des propositions alternatives, c'est lu par le grand nombre à travers la culture dominante. Il n'y a pas les personnes, elles comprennent ce qu'il aurait dit à travers la manière dont elles ont été construites. Donc là aussi, c'est source de tension et de difficultés dans la conduite de l'action. Par rapport à ça, on a fait apparaître que l'émancipation collective, c'est à la fois être libre de s'organiser pour faire advenir le monde de qu'on veut. Mais que cette émancipation collective, elle passe par des choix d'individus. On n'émancipe pas quelqu'un contre lui ou malgré lui. C'est seul un acte volontaire d'individu qui permet de s'émanciper. C'est les émancipations individuelles des uns et des autres qui vont permettre une émancipation collective. Et il y a toute cette dialectique entre l'individu et le collectif qui est source de tension. Et ça, on s'est aperçu, c'est revenu plusieurs fois, la notion du temps court et du temps long. Le temps de l'action qui permet de gagner une bataille, c'est un temps court. Même si Notre-Dame-des-Landes, c'est 10 ans. Mais changer une société, ce n'est pas sur 10 ans. On est sur des processus bien plus longs. Donc il y a à la fois réussir à tenir dans le temps court un certain nombre de victoires pour mobiliser, mais en même temps ne pas se contenter de penser les batailles les unes à côté des autres, mais les penser dans une stratégie du temps long. Après, donc, qu'est-ce qu'il y avait encore? Et là, on va voir aussi la contradiction pour gagner nécessité du grand nombre. Et en même temps, changer la société suppose une réflexion complexe, régulière, revue, et ça se fait pas dans le grand nombre, c'est pas dans la foule que se fait la réflexion, l'analyse du complexe. Donc réussir à tenir des lieux de grand nombre et qui mobilisent le plus de personnes possible, et en même temps de réussir à mettre en place des lieux de petit nombre qui fassent les analyses et fassent avancer le projet. Qu'est-ce que c'est que j'avais encore noté? Oui, et l'élaboration de ces collectifs qui regroupent les gens par rapport à leur insatisfaction, elle regroupe des gens qui ont des intérêts, des niveaux d'analyse très différents. Et élaborer un projet de société, y a toute une organisation à se donner pour que de la colère légitime des personnes qui sont dans une situation de domination par rapport à des dominants, réussissent à passer à... On essaye de voir comment réussir à penser une organisation de société où ce soit pas, qu'il ne soit pas pensé en dominant-dominé. Voilà. Qu'est-ce qui restait encore ? Oui, aussi de s'apercevoir dans ça, on va avoir dans cette réflexion entre réflexion-action un décalage des centres d'intérêt. Et souvent, les populations les plus victimes, c'est, bon, il y a problème de pouvoir d'achat, problème de logement, problème, qui sont les plus victimes, elles vont être moins disposées à passer du temps pour élaborer de l'alternatif. Parce que, mais concrètement, nous, c'est le logement. Et ceux qui pensent à, plus largement qu'est-ce qui fait que les personnes n'aient pas de logement alors qu'il y a des logements libres, qu'est-ce qui fait que les personnes n'aient pas de quoi vivre alors qu'il y a des super profits et des excessivement riches, ceux qui pensent ça ne vivent pas forcément les conditions objectives d'aliénation. Donc, articuler ces deux types de populations. Et peut-être le dernier point, c'est que on voit bien que tout ça, l'action pour changer la société est au cœur du politique. Le politique, qu'est-ce que c'est ? C'est comment qu'on fait pour vivre ensemble sur un territoire, en sachant qu'on n'a pas tous les mêmes intérêts et qu'il va falloir faire avec. Donc, on est au cœur du politique et l'organisation, la société, la pensée dominante fait que le politique n'est pas pensé comme ça. Mais le politique, c'est une approche par la politique, ce qui serait un secteur d'activité de la société qui serait conduit par un petit nombre de personnes, le personnel politique. C'est-à-dire que dans la représentation dominante, le politique échappe au grand nombre, en disant mais c'est pas vos affaires. Et le grand nombre, souvent, l'accepte. En disant, ben oui, nous, on fait pas de politique. Pourtant, ils font de la politique et ils la vivent, les conséquences. Voilà, en gros, les grands axes qu'on a développés ce matin.
Bien, merci, Paul. Merci à tous les deux. Merci, Adeline de Lépiné. Merci, Paul Masson. Alors, je signale pour nos auditrices et auditeurs qui nous écouteraient en octobre-novembre que cet entretien et ce débat au lieu autogéré avec Adeline de Lépiné s'inscrit dans un petit cycle, en quelque sorte, hein, consacré à l'éducation populaire, d'une manière très pratique, hein, pour les collectifs militants, les associations qui s'y investissent sur le territoire, hein, dans le bassin minier. Je signale donc que c'est le premier épisode, la première étape de ce cycle. Deuxième étape, vendredi 29 octobre à 18h30, avec Ludivine Bontini, qui viendra autour de son livre sur la commune nous préciser en quelque sorte, hein, dans le prolongement de ce qu'on s'est dit aujourd'hui, nous préciser les contradictions à l'œuvre au moment de la commune, hein, par les communards et les communards. Et on terminera ce petit cycle, on terminera provisoirement, on peut le dire comme ça, ce petit cycle le 6 novembre, hein, samedi 6 novembre, toute la journée, par des ateliers, hein, autour de nos engagements en éducation populaire pour essayer de cerner un peu plus ces questions. Merci à toutes et à tous. Bonne continuation. Bye bye.